France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, en direct jusqu'à 13h, et pour la dernière fois de la saison, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui, sur le sommet de l'OTAN qui s'est tenu cette semaine à La Haye, un sommet marqué à nouveau par la toute-puissance de Donald Trump. Et puis pour le débat, nous recevrons un romancier, poète et journaliste franco-syrien. Son dernier roman, L'Arabe qui sourit chez Flammarion, vient de lui valoir le premier prix littéraire du Quai d'Orsay. Réfugié à Paris depuis plus de 10 ans, son nom figurait sur la liste noire des ennemis du funeste régime de Bachar al-Assad. Nous écouterons son point de vue sur la nouvelle série, mais aussi sur l'identité française. L'écrivain Omar Youssef Souleymane sera avec nous pour le débat, mais pour l'heure, place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Allez, pour le dernier grand face-à-face de la saison, vous nous donnerez en fin d'émission vos conseils de lecture pour l'été qui démarre. Mais d'abord, le duel qui commence avec l'incontournable Donald Trump. Il était cette semaine en Europe, à La Haye, où s'est tenu mardi et mercredi un important sommet de l'OTAN dans le contexte du conflit entre l'Iran et Israël. Et Donald Trump a beaucoup parlé de l'Iran.
On va parler avec eux, avec l'Iran, la semaine prochaine. On signera peut-être un accord, je ne sais pas. Pour moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je veux dire, ils ont fait la guerre, et là, il faut qu'ils reviennent à leur monde. Ce n'est plus très important d'avoir un accord ou pas. La seule chose qu'on leur demandait, c'était qu'on ne voulait pas de nucléaire en Iran. Mais on a détruit tout ce qui était nucléaire. On l'a détruit.
Alors, on a beaucoup évoqué une réunion possible entre les États-Unis et l'Iran la semaine prochaine. Bon, depuis, les choses se sont légèrement envenimées. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné les propos, je les cite, irrespectueux et inacceptables du président Donald Trump, qui avait affirmé avoir mis une raclée à l'Iran, je le cite toujours, et évité à son guide suprême Ali Khamenei une mort affreuse et ignominieuse. Natacha, c'est du Trump dans le texte. Ça dit quoi de sa manière de gérer les relations internationales et de ses objectifs, au fond, avec l'Iran ?
Il y a quelque chose toujours d'édifiant dans la façon dont se passe, la manière dont Donald Trump gère les problématiques internationales. Et là, on a en effet ces déclarations, on a ces vidéos retweetées avec des petites musiques, Bomb Iran, des chansons, qui sont là aussi d'une absence totale du minimum de respect pour les vies humaines qui ont été mises en jeu et détruites. On peut ajouter d'ailleurs les déclarations de Donald Trump sur Netanyahou. C'était aussi extrêmement intéressant, puisque cette semaine, il s'est insurgé, il s'est déclaré choqué d'apprendre que l'État d'Israël, je cite, « poursuit sa chasse aux sorcières ». Là aussi, le ton est Trump typique. « Nous venons de traverser l'enfer ensemble en combattant un ennemi de longue date très dur et brillant d'Israël, l'Iran. » Et Bibi n'aurait pas pu être meilleur, plus vif ou plus fort dans son amour pour l'incroyable Terre Sainte. Bref, il ne faut surtout pas poursuivre Benjamin Netanyahou pour corruption. Bref, ça, c'est un petit peu, on va dire, l'écume. Ce qui est intéressant là-dedans, premier point, c'est que Donald Trump ne s'est pas laissé entraîner dans une guerre dont il ne voulait pas. C'est-à-dire que le Benjamin Netanyahou lui a évidemment forcé la main au départ, mais il s'est retenu. En revanche, il est en train de découvrir qu'il est tout aussi compliqué de gérer l'Iran que de faire la paix avec la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Et là, en l'occurrence, on peut se demander, in fine, à quoi aura servi cette intervention. Parce que c'est ça qu'il va falloir se poser comme question, au-delà, en effet, des soubresauts permanents. Qu'aura amené cette intervention, mis à part reculer de quelques semaines, selon le point de vue d'Israël, l'avancée du programme nucléaire iranien. L'AIEA ne pourra plus, pour l'instant, venir inspecter, puisque les Iraniens n'en veulent plus, alors que l'AIEA pouvait, jusqu'à présent, accéder et était sur place. Le risque de voir le pouvoir iranien se venger sur sa population et poursuivre un programme nucléaire, cette fois-ci secret, est non négligeable, voire immense. Bref, Le gâchis semble total, avec une apparence dans laquelle, en effet, chacun peut pérorer. J'ajoute le dernier point, parce que c'est aussi le sujet, mais je vais laisser Gilles prendre la parole. Le sommet de l'OTAN a simplement montré que dans toute cette désolation, le pire est sans doute l'attitude des Européens au sommet de l'OTAN et l'humiliation qu'ils acceptent de subir. Je développerai tout à l'heure, je laisse Gilles donner son point de vue.
Oui, précisément Gilles, peut-être sur cette question des Européens, parce que effectivement, on a eu le sentiment que les Européens étaient inaudibles cette semaine à La Haye, qu'ils écoutaient le président américain, qu'ils même lui obéissaient en augmentant leurs dépenses des défenses à 3,5% de leur PIB, ce qui est une demande américaine, parce que ça va générer des commandes au complexe militaro-industriel américain. Est-ce que c'est la lecture que vous avez aussi de la semaine, même si vous avez peut-être envie de revenir aussi sur l'intervention américaine en Iran?
Je crois qu'on peut essayer de réfléchir aux deux en même temps. Deux choses, moi, qui m'ont frappé. D'abord, c'est l'infantilisation. L'infantilisation de Donald Trump, nous y sommes habitués, à la fois dans son mode de communication, il est resté au stade oral, il n'écrit jamais, on se souvenait de ce que racontait Giuliano da Empoli dans L'heure des prédateurs, il ne lisait même jamais une page. Le registre des émotions, c'est l'alternative entre les gentils et les méchants, et les insultes sans filtre, on en a eu encore une illustration cette semaine. Mais ce qui m'a frappé, vous parliez des Européens, c'est qu'on a eu cette semaine une sorte d'infantilisation mimétique. C'est-à-dire, quand on regarde la manière dont s'est déroulé ce sommet de l'OTAN, il fallait faire court pour que les enfants ne s'ennuient pas, et donc on a eu un programme allégé. Il fallait faire spectaculaire pour que les enfants soient éblouis, et donc on a eu ce dîner royal d'apparat. Et jusque dans le SMS que Mark Rutte a envoyé à Donald Trump, il a adopté la graphie des enfants et la graphie de Donald Trump avec une écriture en bâton sur les mots importants. J'ajoute même qu'il faut faire des cadeaux aux enfants. Alors, quand on est très riche comme les Qataris, on offre un avion. Quand on est moins riche comme le président sud-africain, on lui offre le livre des parcours de golf d'Afrique du Sud. Quand on est l'OTAN, on lui offre la victoire symbolique. Quand on est les Européens, l'OTAN, la victoire symbolique des 5%. Je souligne tout ça parce que il faut prendre garde aux effets d'accoutumance et trouver qu'il y ait une forme de nouvelle normalité, alors que ce type de relation internationale n'est pas normal. Maintenant, sur le fond, sauf à considérer que par principe, la détestation que l'on peut avoir de Donald Trump, et que j'ai, doit conduire à récuser la possibilité même de toute victoire pour lui, c'est quand même une double victoire, ce qui s'est passé cette semaine. Mais sans doute pas celle que l'on évoque, parce que qu'a-t-on entendu, et sur lequel je crois qu'il faut être prudent, en Iran, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, la destruction de l'appareil nucléaire, et à l'OTAN, l'engagement européen de porter les efforts de défense à 5% du PIB. Et donc ce serait ça, la double victoire de Trump. La réalité est que sur l'Iran, Natacha l'a dit, les informations sont aussi peu fiables que contradictoires, et donc on ne sait pas vraiment. Et sur l'OTAN, on sait que ces 5% sont un artifice, qu'il y a 3,5% d'efforts de défense, ce qui est déjà beaucoup, et que les 1,5% supplémentaires, ce sont des choux et des carottes qu'on a reconvertis en dépenses militaires. En revanche, ce que l'on a peu entendu, et je crois pour le coup que ce sont des victoires pour Donald Trump, sur l'Iran, Natacha le disait d'une certaine manière, le résultat c'est qu'il ne s'est pas laissé entraîner et qu'il a obtenu une fin, peut-être provisoire, de l'engrenage militaire, et puis qu'il a adressé deux signaux, et ça, pour les États-Unis, c'est un succès, sans doute pas pour le peuple iranien, c'est la supériorité du matériel de guerre américain, spectaculaire, et l'adaptabilité tactique de Donald Trump, avec la versatilité qui l'accompagne. Et puis, pour l'OTAN, et je termine par là, je crois que le point le plus négatif, c'est que la coopération entre les industries de défense américaines et européennes qui a été rappelée dans le communiqué final traduit implicitement un échec pour l'Europe de la défense, que la prise de conscience que l'on avait sentie il y a quelques semaines sur la nécessité pour les Européens de construire une défense autonome, on a vu déjà qu'elle était en difficulté ces dernières semaines, eh bien, elle l'est davantage encore après ce sommet.
Natacha, peut-être sur l'infantilisation du monde, on parle beaucoup de trumpisation pour Gilles, c'est une forme d'infantilisation, mais allez-y, je vous
laisse. Oui, mais en effet, il faut pour cela vouloir se laisser infantiliser, et je poursuis sur ce que disait Gilles à l'instant, j'ai souvent peur de paraître trop pessimiste sur la capacité des Européens à se réveiller. En effet, ces derniers mois, on a entendu des mots qui ne pouvaient être que positifs et, on va dire, un tout petit peu enthousiasmants, mais les mots sont toujours beaucoup plus intéressants. Enfin, voilà, beaucoup plus porteur et beaucoup plus facile à prononcer que les actions ne le sont à mettre en œuvre. Je rappelle donc que les importations d'armes en Union européenne ont augmenté de 155% sur 5 ans. Que les États-Unis, qui représentent aujourd'hui 43% du marché mondial d'armes, contre 35% il y a 10 ans. Ces chiffres-là nous montrent tout simplement que cette Europe de la défense dont on parle depuis quelque temps maintenant, dont les Européens se font des gorges chaudes, en fait, pour l'instant, n'a même pas commencé. Et c'est tout le problème. Et ce qui est aujourd'hui négocié entre Européens, à savoir le fameux EDIP, le programme d'industrie de défense européenne, dans lequel, pour l'instant, le Parlement européen est en train de discuter pour savoir si on va réserver cela à des armes produites en Europe. Mais les armes produites en Europe, ça ne suffira pas. Là, on présente comme une victoire le fait qu'on ait réussi à arracher 65% d'armes produites en Europe et surtout de contenu de chaque arme qui soit proprement européen. Mais en fait, un seul pourcent de matériel américain suffit à faire passer ces armes sous norme ITAR, c'est-à-dire ce qui fait que les États-Unis décident ce qu'on va faire de leurs armes. Donc, tant que ce n'est pas 100%, et encore en tenant compte du fait qu'il y a énormément de PME et d'ETI normalement, notamment allemandes, qui produisent sur le sol allemand, mais sous licence américaine, tant qu'on ne prend pas en compte ce genre de choses, nous sommes en effet totalement dépendants de la bonne volonté du grand frère, voire du daddy, comme dit Mark Rutte, américain. Et je rappelle que l'article 2 du traité de l'OTAN précise ceci. Les partis s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leur politique économique internationale et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes. Bref, la guerre douanière qu'a lancée Donald Trump est déjà une façon de piétiner le traité de l'Atlantique.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, deuxième thème du duel, l'interminable conclave sur les retraites, malgré sa prolongation, s'est conclu enfin, oui, mais par un échec des négociations, fragilisant un peu plus encore le Premier ministre François Bayrou. François Bayrou qui a tenté de mettre la pression sur les socialistes et un peu sur Gilles Finkelstein. C'était lors de sa conférence de presse jeudi.
Quand on a les organisations syndicales, celles que j'ai nommées sont des organisations syndicales de premier plan, toutes ne sont pas là. Mais disons-le, tous ceux qui participent au réformisme. Je n'imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard, par exemple, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, puisse considérer que c'est objet de censure.
Gilles, vos oreilles sifflent. Le parti de Jacques Delors ou de Michel Rocard, c'est le vôtre. Les sociodémocrates, c'est votre famille politique. Est-ce que vous vous sentez engagé par les propos là du Premier ministre? Et plus sérieusement, est-ce que les sociodémocrates font une erreur en allant vers la censure plutôt qu'en soutenant les réformes, même faibles, permises par le conclave?
Oui, je pense que François Bayrou s'adressait spécifiquement à moi dans cette situation. Non, le problème, c'est que le conclave s'est traduit par un échec. Et que si il y avait eu un succès, je pense que les uns et les autres, et notamment les socialistes, mais pas seulement les socialistes, se seraient sentis comptables des résultats de ce conclave, et que, ce faisant, la transposition législative se serait passée facilement. Là, on peut débattre du point de savoir si le Parti socialiste a eu raison de dégainer aussi rapidement l'arme de la censure, mais ce n'est pas en raison de l'échec du conclave, c'est parce que les socialistes considèrent que François Bayrou a manqué à la parole qu'il avait donnée au Parlement lors de sa déclaration de politique générale, en promettant que, in fine, c'est le Parlement qui débattra de ce sujet-là. Après, l'essentiel, quand même, c'est d'essayer de comprendre, je crois, pourquoi ce conclave, cet interminable conclave, pour reprendre votre expression, n'a pas pu aboutir. Je ne crois pas que ce soit en raison des acteurs de la négociation. C'est-à-dire que, par nature, la démocratie sociale dans notre pays serait incapable de résoudre de grands problèmes. Je crois qu'elle a démontré le contraire à bien des reprises. Sans doute le thème de la négociation, les retraites, fait que l'accord est difficile parce que c'est un sujet, un point de crispation de la société française. Mais je crois que pour l'essentiel, ce sont les conditions de cette négociation. Parce que soit on donne aux partenaires sociaux la responsabilité d'un sujet, soit, quand ce n'est pas le cas, il faut que le gouvernement tente de créer un équilibre dans la négociation pour qu'il y ait un intérêt à conclure qui soit partagé. Et là, on est parti d'une situation qui était la réforme Borne, et si il y avait échec, et il y a échec, eh bien, on reste dans cette situation-là. Le MEDEF avait peu d'intérêt à conclure, on le savait depuis le début.
Natacha, leçon du dialogue social par Gilles Finkelstein. Quand on revient un peu sur ce qui se passe, désormais, François Bayrou évoque un compromis sur la pénibilité, il le dit, à portée de main, et il s'engage à porter le sujet devant le Parlement à l'automne. On avait évoqué la semaine dernière peut-être que ses jours étaient comptés. Est-ce qu'il a gagné quelques mois, François Bayrou, jusqu'à l'automne? Et, question subsidiaire, est-ce qu'il se met, comme Michel Barnier en son temps, dans la main du Rassemblement National, qui peut ou pas le faire tomber à sa guise?
Alors, je pense que, étant donné la façon dont ce conclave se passait, et je rejoins Gilles sur le problème de départ, à savoir le fait que le MEDEF n'avait aucun intérêt à ce que ce conclave soit conclusif, étant donné cela, de toute façon, François Bayrou était en partie pieds et poings liés et soumis au bon vouloir du RN, ce qu'il sera, nous le savons tous, au moment du budget. Puisque c'est là, en fait, que les choses vont se passer. Donc, qu'il ait gagné un peu de temps ou pas, n'a finalement pas grande importance, puisque le Rassemblement National, quoi qu'il arrive, avait peu d'intérêt à déclencher une crise maintenant. Le problème, me semble-t-il, dans cette affaire, c'est la question de savoir pourquoi nous nous empaillons depuis 2 ans sur le sujet des retraites et que nous aboutissons à cette impression de gâchis, cette idée que même s'il y a quelques vagues avancées, en fait, le problème n'est absolument pas réglé et que certes, la CFDT a tenté de, on va dire, de détricoter la réforme de l'intérieur en faisant passer le plus possible de gens du côté de ceux qui pourraient partir plus tôt, mais que finalement, il n'y a pas de politique vastes qui prennent en compte la totalité du problème. Et le problème, je vais peut-être le dire un petit peu brutalement, mais il me semble que le problème, pour l'instant, c'est le fait que le pays s'endette pour payer des pensions à ceux qui sont partis à 60 ou 62 ans et qui épargnent cet argent de telle sorte qu'il ne bénéficie pas à l'économie française et qu'il n'est pas réintroduit dans l'économie française. L'INSEE a signalé cette semaine le fait que l'épargne des Français est toujours extrêmement importante, mais que les 2/3 de cette épargne sont le fait des plus de 65 ans. Ce qui nous montre à quel point nous avons une économie qui n'irrigue pas la production et qui ne bénéficie pas aux actifs. Tant qu'on ne prendra pas cette question dans son ensemble et à bras-le-corps, on se retrouvera avec des avancées minimes sur certains points et cette image terrifiante.
Gilles, pour conclure sur ce thème?
Oui, juste un point. Je pense que c'est quand même, d'un point de vue politique, cette fois-ci, je pense que ce n'est pas totalement une censure, même une péripétie. La censure ne passera pas, mais c'est pas une péripétie parce que comme le gouvernement Barnier, la survie du gouvernement de Bayrou va se faire grâce au Rassemblement National. Et puis surtout, et je trouve que c'est ça l'élément le plus important, on a vu émerger un double clivage. Est-ce qu'il fallait une réforme de la réforme Borne pour la gauche et François Bayrou contre les Républicains et Renaissance? Comment cette réforme de la réforme doit-elle avoir lieu? Par voie législative LFI, par voie de négociation, le PS, d'une certaine manière, et le MoDem. Je trouve que ça, c'est un clivage qui n'est pas inintéressant.
Le grand face-à-face, le duel.
Vous savez à quel point je suis un défenseur de la démocratie, mais simplement défendre la démocratie contre les populismes ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut, c'est régénérer la démocratie. Et c'est se poser une question simple. Pourquoi ces mouvements populistes, triomphent partout dans les démocraties occidentales? Largement parce que la grande promesse que les démocraties occidentales avaient faite à leur classe moyenne, c'était la promesse eh bien, d'améliorer leurs conditions de vie par le travail. Et que cette promesse-là n'est plus tenue.
La gauche peut-elle répondre au populisme ? L'eurodéputé Raphaël Glucksmann sur France 5 lundi, juste après avoir présenté la vision pour la France de son mouvement Place Publique, projet centré sur l'Europe, l'écologie et, on vient de l'entendre, un contrat social qui doit permettre de relancer, je les cite, la gauche pro-européenne et viscéralement démocrate. Gilles, cette semaine, ça tombe pas mal, la Fondation Jean Jaurès, la vôtre, a publié un rapport important, je crois, sur ce que les auteurs appellent une troisième gauche capable de répondre précisément au défi du populisme. Est-on dans cette ligne avec Raphaël Glucksmann ?
En tout cas, je crois que c'est la question qu'il est urgent de se poser. Ce que l'on a essayé de faire dans cette étude, qui est une étude collective avec beaucoup de diversité dans sa production et qui est une étude européenne et même internationale, parce que ce n'est pas une question franco-française. Et je crois qu'elle sort à un moment, après les congrès d'un certain nombre de partis, ou les propositions d'ailleurs de Raphaël Glucksmann, mais avant le débat présidentiel, et que c'est pas mal d'essayer d'organiser le débat.
Alors, que dit-elle ?
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'abord, il y avait une grande lucidité sur l'analyse, et que ce rapport porte le fer dans la plaie. Il analyse dans leur chronologie, dans leur généalogie, les tentatives de réagencement idéologique de la social-démocratie ou du socialisme depuis 30 ans, de la troisième voie de Tony Blair au début des années, à la fin des années 90, en passant par l'altermondialisme et le souverainisme, en allant jusqu'au populisme de gauche après la crise financière au début des années 2010, puis vers les marches vers le climat au début des années 2020, et il montre les limites, les échecs et le risque, et il dit les choses crûment, le risque que court la gauche de sortie de l'histoire, où elle est partout en déclin et où elle est souvent résiduelle. Et donc ça, je pense que c'est important de prendre conscience de la situation dans laquelle se trouve la gauche. Et puis ce texte est ambitieux en ce qu'il esquisse une redéfinition doctrinale, c'est ce qu'il appelle la troisième gauche post-sociétale, pour caractériser ce que propose ce rapport. Elle est plus interventionniste, plus sociale, plus protectionniste, plus universaliste, plus régulationniste par rapport à l'immigration, et elle est moins communautariste, moins sans-frontiériste, moins social-libérale, moins libre-échangiste. Il y a derrière une stratégie politique, une stratégie électorale de reconquête des milieux populaires. Je suis pas, moi, nécessairement en accord avec tout ce qu'il y a dans ce texte, mais je trouve que ça mérite un débat, que ça bouscule la gauche sur les questions d'immigration, de sécurité, d'écologie, d'économie, et qu'il va falloir prolonger ce débat sur ses implications programmatiques, sur quoi ça débouche vraiment comme proposition, et nous allons, nous, Fondation, prolonger ce débat puisqu'on a sollicité en fin de semaine, 10 grands responsables politiques sur un très large spectre pour leur demander de réagir et pour faire en sorte que ça percole entre le débat intellectuel et le débat politique.
La gauche scandinave a épousé un peu de ces hypothèses-là. Vous n'avez pas répondu sur Raphaël Glucksmann, Gilles, avant de donner la parole à Natacha. Est-ce que ce qu'on a entendu de Raphaël Glucksmann et de Place Publique aujourd'hui, c'est une tentative d'aller vers cette troisième gauche que vous évoquiez ?
Alors, il se trouve que cette semaine, Raphaël Glucksmann a publié ce qu'il appelle une vision pour la France.
Vision pour la France.
Il y avait beaucoup de propositions. Je trouve qu'il y avait, pour le coup, beaucoup de propositions, et c'est bien, mais trop peu de vision pour le coup, et que je trouve que les deux textes se complètent. En tout cas, l'idée que par le travail, les classes moyennes, les classes populaires doivent retrouver une situation qu'elles ont perdue depuis 20 ans, je crois que ça c'est un objectif qui est un objectif commun.
Natacha, sur cette troisième gauche, en écoutant Gilles, je me disais que cette gauche se rapproche peut-être un peu de la vision que vous portez souvent dans ce studio, dans cette émission, notamment sur la question du souverainisme, sur la question du libre-échange, peut-être aussi d'une forme de pragmatisme sur les questions migratoires.
Alors, en effet, quand j'ai lu ce rapport qui est absolument passionnant, j'ai eu l'impression qu'il était en partie, même totalement, écrit pour moi. J'y retrouve même toutes mes références intellectuelles.
Il y a eu François Bayrou qui a parlé à Gilles Finkelstein. Il y a un rapport qui vous parle à vous. Non, c'est
bien sûr, on y trouve George Orwell, on y trouve Christopher Lasch, et on y trouve énormément de réflexions très intéressantes sur ce qu'est la gauche et ce qu'elle n'arrive plus à être. Par exemple, cette phrase de Mark Fisher, « Une gauche qui n'a pas la classe en son cœur ne peut être qu'un groupe de pression libérale ». C'est-à-dire que la gauche radicale qui, en fait, essaye de parler à chaque minorité et de défendre ses intérêts, fait le jeu de la dérégulation qu'elle prétend et de l'individualisme qu'elle prétend combattre. De même, cette phrase de George Orwell qui dit que pour que la gauche l'emporte, il faudrait 1) que les intérêts de tous les exploités se rejoignent et 2) que le socialisme ne heurte pas forcément la décence ordinaire. Donc il y a dans ce rapport une réflexion en fait sur les impensés de la gauche sur les 20 ou 30 dernières années et en particulier sur cette dérégulation qui a détruit les classes populaires et les classes moyennes des pays européens et dont la question sur l'immigration est un des éléments et un élément dont on voit que une partie des gauches européennes tente de le prendre en charge en comprenant qu'il y a là un moyen, on va dire, d'éviter que cette question ne soit kidnappée par une vision purement identitaire. Ce qui me semble intéressant, alors ce que moi je lis dans ce rapport, ou plutôt ce qui y transparaît mais qui n'est peut-être pas abordé suffisamment de front, c'est cette question pour moi cruciale qui est que la gauche, les gauches, sur les 20-30 dernières années, ont oublié ce qui faisait le cœur de leur réflexion. Le terme de gauche jaurésienne revient souvent dans le rapport. C'est la réflexion sur la production, les moyens, les conditions de la production. Or, d'avoir cessé de penser cela en pensant qu'on pouvait accepter la division mondiale du travail, eh bien, toute une part de la gauche est passée à côté de la question sociale et de la question écologique et n'a pas vu que la façon dont l'Union européenne se construisait comme un lieu de flux, un grand hub, comme on dit, qui évacue cette question de la production, eh bien, faisait le jeu, en fait, d'une dérégulation qui a abouti à la montée des populismes, et enfin, en tout cas, de l'extrême droite. Donc, il y a dans ce rapport les conditions qui permettent de penser une gauche qui s'appuie sur ce qu'un des auteurs appelle un socialisme populaire. Et ça me semble tout à fait intéressant.
Gilles, un mot aussi pour conclure là-dessus ?
Oui, un mot. Ce que je trouve devoir être, quand je disais, il faut voir quelles sont les implications programmatiques. Oui. D'abord, c'est un texte qui parle, je crois, trop peu de l'Europe, de l'Union européenne, de la manière dont on s'insère dans l'Union européenne et des rapports de force que l'on peut y bâtir. Et puis sur la question de l'immigration, qui est un point très important. Je crois qu'il est juste de dire que, enfin, je partage en tout cas l'idée que la gauche doit assumer d'avoir un discours de régulation de l'immigration et ne doit pas être dans l'idée d'un monde sans frontières. Que angler cette question-là sur la défense de l'État-providence, je crois, est juste. Mais quand je dis il faut voir quelles sont les implications programmatiques. J'avais évoqué il y a quelques semaines le rapport qu'avait écrit Hakim El-Karoui pour Terra Nova, qui montrait que pour défendre l'État-providence, notamment pour défendre ses équilibres démographiques sans lesquels il n'a plus d'équilibre du tout, on avait besoin dans les 20 ou 30 prochaines années d'avoir une immigration certes régulée, mais une immigration qui est quand même non pas conséquente, mais qui prolonge ce qu'on connaissait il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire, je crois, de mémoire, aux alentours de 250 000 entrées par an. Je crois que il faut aller jusqu'à cette finesse dans le débat-là.
Un petit mot pour les auditeurs qui aimeraient lire cette étude. On la trouve sur le site de la Fondation Jean Jaurès, Gilles ?
Oui.
On le trouve et on le trouve gratuitement.
On le trouve et on le trouve gratuitement, donc on le lira encore plus avec intérêt parce que vous avez donné quelques pistes, mais en effet, il y a quelque chose qui se joue autour de cette étude qui mérite, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit de gauche ou de droite, mais qui mérite d'aller voir un peu plus loin. Allez, en place au débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, Le débat.
Bonjour Omar Youssef Souleyman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes romancier. Votre dernier roman, L'Arabe qui sourit, est paru chez Flammarion. Il vient de recevoir, félicitations,
merci,
le premier prix littéraire du Quai d'Orsay. Vous êtes aussi poète et journaliste. Vous êtes né en Syrie et vous avez trouvé en France, il y a une dizaine d'années, une nouvelle patrie, un refuge, largement construit autour de votre amour de la littérature, de la langue française, de ses auteurs sur lesquels nous allons revenir. On va revenir sur la France, sur sa littérature donc. Mais d'abord, partons pour la Syrie, le pays de votre naissance, de votre enfance, un pays qui a chassé le clan Assad en décembre dernier, un pays dans lequel vous êtes retourné pour la première fois en janvier 2025, un pays fragile, profondément divisé, violent, qui nous inquiète, mais qui parfois peut aussi nous donner un peu d'espoir. En revanche, cette semaine, on a été très frappé par un attentat terrible dans une église, l'église Saint-Élie de Damas, un attentat qui a fait 25 morts dimanche dernier. On va écouter un extrait du reportage de Manon Chaplin pour France Inter, diffusé lundi matin.
Les couloirs de l'hôpital Al-Mujahid sont remplis de familles désœuvrées. Par endroits, le sol est encore maculé de sang. Deux femmes courent, sortent en hurlant. Plusieurs membres de leur famille ont été tués dans l'attentat.
Ils sont tous morts. Il nous reste un seul frère. Il est en train de se faire opérer à l'hôpital français.
Les deux femmes se tombent dans les bras, racontent dans un torrent de pleurs. L'assaillant a ouvert le feu sur les vitraux à l'extérieur de l'église avant de rentrer par la porte principale. Il tenait dans sa main une grenade, menaçait de la faire exploser au milieu des croyants. Leurs maris l'ont repoussé à l'extérieur avant qu'il active sa ceinture explosive.
Nos maris ont volé avec lui. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que ça? Nos maris n'avaient jamais tué ni même une fourmi. Pourquoi ? Nous sommes chrétiens, nous prions notre Dieu tous les jours. Nous ne sommes pas des mécréants. Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Qu'est-ce qu'ils veulent ? Omar Youssef Souleyman, cet attentat a été revendiqué par un groupuscule djihadiste qu'on ne connaissait pas. Ansar al-Sunna, inconnu jusqu'alors, né après la chute de Bachar, alors que le pouvoir en place d'aujourd'hui l'avait attribué à l'État islamique. Qu'est-ce que cet attentat et sa revendication dit de l'État de la Syrie d'aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est d'abord la réaction de peuple syrien et celle de gouvernement. Le peuple, on a découvert, enfin, on a trouvé heureusement une bonne partie des Syriens qui étaient tellement solidaires, qui ont refusé avec une grande colère cet attentat. Et il y a certains qui disent OK, ils méritent ceci parce qu'ils sont infidèles, etc. Ils sont les radicaux. Alors la réponse ou la réaction du gouvernement, elle est complètement honteuse. Et ceci n'est pas surprenant. Il faut d'abord savoir, Ansar al-Sunna, par exemple, que vous évoquez, c'était une branche de HTC, du gouvernement actuel. Il ne faut pas oublier non plus
Le groupe dont vient Ahmed al-Shara, le dirigeant actuel syrien.
Tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus que le ministre de l'Intérieur, par exemple, il a déjà écrit un livre il y a juste quelques années qui s'appelle l'Islam et la religion de djihad, qui offre ce livre à tous les djihadistes. Ça s'appelle Laden, Ayman al-Zawahiri, Al-Zarqawi, etc. Donc ce sont des djihadistes point barre, son pouvoir, y compris Ahmed al-Shara, par exemple.
Ça veut dire que vous ne croyez pas à l'évolution d'Ahmed al-Shara, passer du militant religieux et politique à un homme capable de réaliser la concorde et de réconcilier cette nation profondément divisée et meurtrie par les années Assad?
Je pense qu'un djihadiste, un jour, un djihadiste, toujours. On ne peut jamais faire confiance à un djihadiste qui a passé toute sa vie, depuis quand il était jeune, en faisant des attentats, à collaborer avec d'autres groupes djihadistes extrêmement radicaux en Syrie. Il ne faut pas oublier non plus la réaction du gouvernement. Enfin, on a les éléments sur place, c'est-à-dire à la suite, enfin, le soir même de l'attentat, aucun responsable de ce gouvernement était sur place. Je parle de, par exemple, le ministre de l'Intérieur, je parle de Premier ministre, de chef de l'État, etc. Il y avait une seule ministre qui s'appelle Nkabawat, qui n'a vraiment aucun pouvoir en Syrie, qui s'est dirigée vers l'Église. D'ailleurs, elle est chrétienne, vous voyez. Et je tiens à préciser que les chrétiens, avant la guerre en Syrie, avant 2011, on avait 10%. Du peuple syrien. Aujourd'hui, on a 2,5%. La politique du gouvernement actuel, très clairement, c'est expulser les chrétiens de ce pays. Quand on a eu les attentats contre les Alaouites en mars dernier, sur plusieurs checkpoints et à Damas et sur la côte, les réponses ou les insultes des soldats de HTC, c'était aujourd'hui ce sont les Alaouites, demain ce sont les chrétiens. Mmh. Là, ça commence avec les chrétiens. À l'avenir, on ne doit pas attendre que ça s'arrête et on ne doit jamais collaborer avec ce gouvernement assassin.
J'aimerais qu'on revienne à votre retour en Syrie en janvier dernier. Vous n'aviez pas mis les pieds depuis plus de 10 ans, depuis
13 ans,
depuis voilà. 13 ans, depuis que vous avez dû quitter ce pays, étant vous-même menacé par le régime Assad. Quand vous revenez en Syrie, que voyez-vous? Est-ce que vous voyez un pays que vous aviez totalement oublié, qui n'existe plus, ou bien vous retrouviez un peu de votre Syrie des années 2000?
Les deux. D'abord, pendant ces 13 ans, j'ai même peu de contact avec les miens, avec ma famille, avec ma mère. Donc, quand on revient, on revoit sa mère pour la première fois, 13 ans après, ses frères, certains de ses amis. Il y a toujours une distance qu'on ne peut jamais rattraper, vous voyez. Ça, c'est par rapport aux étrangers. D'ailleurs, la plupart des amis que j'ai quittés en Syrie, soit elles étaient tuées, soit elles sont parties, elles sont quelque part dans le monde. Donc, revenir à Damas, ma ville d'amour, mon premier amour, la première fois où j'ai bu de toute ma vie, la première fois où j'ai expérimenté des choses, c'était tellement surprenant, c'était déchirant, c'était bouleversant, et à la fois, c'était très émouvant parce que j'étais avec l'absence. Vraiment, j'ai marché avec l'absence des autres. J'ai fait exactement ce que je faisais quand j'étais petit, accompagné avec mon père, par exemple. Je suis allé dans les mêmes endroits, les mêmes marchandises, j'ai acheté les mêmes bonbons, etc. Parce que, vous voyez, on a besoin de faire le deuil, de vivre le deuil. Ce qu'il nous manque, franchement, au Proche-Orient, c'est de vivre le deuil profondément, pour plier cette page, pour passer à autre chose, pour avancer dans la vie. Effectivement, la Syrie, que j'ai découvert du point de vue politique ou même social, cette Syrie ne m'a pas reconnu, je ne l'ai pas reconnu non plus. Elle a tellement changé. D'abord, la crise économique était horrible. Vous voyez, aujourd'hui, environ 10 000 livres syriens coûtent $1. C'est insupportable. On a plus que 60% de la Syrie au niveau d'architecture est détruit pendant la guerre. Ce que j'ai constaté aussi, c'est l'ambiance islamique qui était déjà prévue suite à la chute du régime dictatorial de Bachar el-Assad, mais c'était vraiment pas à ce point. C'est-à-dire, au début, on comptait sur la diversité de la société syrienne, en disant encore, et ça c'est vrai, d'ailleurs, vous voyez, à la suite de l'indépendance en 1947, un des plus grands premiers ministres qui fait vraiment partie de la fierté syrienne, s'appelle Faris al-Khoury, il est chrétien, il était chrétien et on l'adorait, il y avait zéro problème entre les communautés, parce qu'aussi la Syrie c'est une société très fragile et très, très riche au niveau de... On a plus que 47 communautés entre ethniques et religieuses. Juste un dernier mot, voilà ce que j'ai découvert à Damas et à Homs, l'ambiance islamique au niveau de drapeaux de Tahrir al-Sham ou d'autres, au niveau des religieux qui sont au pouvoir, tout de suite je n'avais plus d'espoir que ça va s'améliorer.
Et comme le personnage principal de votre roman, l'Arabe qui sourit, qui revient lui aussi dans la région, dans le Levant, entre le Liban et la Syrie, au bout d'un moment il n'a qu'une envie, c'est de repartir.
Effectivement, en fait, ce qui était incroyable, c'est que j'ai écrit ce roman, j'ai déposé le manuscrit le mois de septembre, et le régime d'Assad, parce que quand je suis rentré au Liban, en 2022, dès que j'ai obtenu la nationalité française, j'étais sur les frontières avec la Syrie. Or, je ne pouvais pas les franchir pour voir ma mère, par exemple. Donc j'ai imaginé l'écriture de ce roman, qui faisait partie d'une fiction quand même, accompagnée d'une enquête sur la drogue d'Assad, etc. Et plus tard, j'ai réalisé ce retour. C'est comme si j'ai vécu le roman, contrairement à l'habitude. Effectivement, ce personnage, c'est moi.
Vous l'aviez anticipé.
Tout à fait.
Natacha.
Alors, ce roman montre très bien comment un régime totalitaire détruit les individus par diverses armes. Le captagon, la drogue en est une, mais c'est aussi la torture, la peur. Et il y a une figure tutélaire dans ce roman, c'est Ibn Khaldoun, historien, géographe. Et vous dites, le personnage principal, page 86, explique à quel point on trouve dans l'œuvre d'Ibn Khaldoun une réflexion sur la solidarité, la différence entre les peuples du désert et les peuples des villes, par le fait que quand on est seul et isolé, on a besoin de cette solidarité, alors que, et sans doute, dit votre personnage, ce régime a détruit la solidarité parce que l'État est destructeur. Mais en même temps, quand on vous écoute, on comprend que l'islamisme empêche la résurgence de cette solidarité.
C'est très important.
Comment retrouver, j'allais dire, le chemin d'Ibn Khaldoun? Et ce n'est pas un hasard si, en effet, vous dites que il est étudié en Occident, mais on est en train de l'oublier aussi en Occident. C'est-à-dire qu'on est en train d'oublier ce qui peut créer le lien entre l'Occident et l'Orient.
Omar Youssef Souleyman.
Dingue, j'adore tout ce que vous dites. Franchement, vous avez vraiment.
Vous avez regardé
tous les romans.
Là, vous voyez avec un regard très curieux, très gourmand, et avec un sourire, l'arabe qui sourit, c'était vous, là.
Tout est grave. Donc, alors, ce que d'abord, par rapport à la liberté individuelle, je pense que rien n'est grave de détruire la liberté individuelle d'un être humain. Le régime d'Assad faisait ça pendant 50 ans. Aujourd'hui, les islamistes sur place. Par exemple, il y a juste quelques semaines, il y a une nouvelle loi comme quoi que le bikini est interdit à la plage pour les femmes. D'ailleurs, c'est toujours les femmes, les femmes. Ils ont un problème avec les femmes.
Le corps des femmes en particulier.
Le corps des femmes en particulier. Non, les femmes tout court. Mm. Il faut pas les femmes que soient réussites, etc. Ça, c'est trop islamiste, on le connaît. Et donc, même les hommes, par exemple, avec un short, aujourd'hui en Syrie, on a un problème. Si une femme et un homme marchent ensemble dans les rues, même à Damas, la plus grande capitale du monde. Damas, c'était magnifique, c'était pas du tout ça. On marche ensemble, par exemple, si je marche avec une amie, j'aurais un problème si cette femme n'est pas sa mère ou son épouse, sa fille ou sa sœur. Oui. C'est au point-là. C'est-à-dire, les islamistes, ce qui les intéresse, c'est vraiment détruire la liberté individuelle. Et ça, c'est vraiment l'enfer. On ne peut jamais avancer dans la vie quand on se sent qu'on est surveillé partout, ce qui était aussi le cas d'Assad. Mais autrement, le cas d'Assad, la surveillance était plutôt politique, vous voyez. Alors, par rapport à Ibn Khaldoun, ce qui est tellement dommage au Proche-Orient, vous voyez, c'est...
Je traduis avec notre accent français, Ibn Khaldoun.
Ibn Khaldoun, voilà, j'adore. Donc Ibn Khaldoun, vu que je suis aussi français aujourd'hui.
Merci.
Je vous en prie. Hein. En fait, son livre qui est Al-Muqaddima, qui s'appelle, qui est vraiment incroyable, parce qu'il résume justement, c'est un livre de philosophie, de la sociologie, de la politique, et il creuse dans l'histoire des nations, etc. Et justement, on étudie ce livre aux universités aujourd'hui en Europe. Or, au Proche-Orient, il est complètement absent. Et ce que je trouve vraiment la base de problème des gens au Proche-Orient, c'est qu'on a remplacé les plus grands exemples de l'histoire, comme Ibn Khaldoun, comme Avicenne, comme Averroès. On a des gens incroyables, vous voyez, qui ont fait tellement du bien, qu'ils ont ajouté beaucoup de choses aux valeurs humaines jusqu'à aujourd'hui, et on les a remplacés par des assassins comme Saladin, comme Khaled ibn al-Walid, enfin je veux dire les guerriers. Par exemple, quand on était petit à l'école, on n'a pas étudié Ibn Khaldoun, on a étudié Saladin comme l'exemple, mais on s'en fiche complètement de Saladin, parce que Saladin, enfin, il faisait des guerres, vous voyez. Moi, je pense qu'on peut vraiment s'en sortir. Ça, c'est vraiment le message que je voulais adresser par ce roman, en remplaçant les guerriers par les cerveaux de l'histoire et enseigner ceci aux enfants au Proche-Orient.
Et on a des traces chez nous de ces cerveaux de l'histoire. J'ai découvert cette semaine que le mot « algorithme » en français vient d'un mathématicien arabe, Al, je ne sais plus quoi, mais qui donne algorithme. C'est quand même assez fascinant d'imaginer que cela vient de là et que c'est aujourd'hui oublié chez nous, mais aussi dans le monde arabe. Gilles.
J'ai beaucoup aimé votre roman, aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé la tension de l'intrigue. Au fur et à mesure, on se dit « mais que va-t-il se passer ?» et on tourne les pages avidement pour savoir ce qu'il va se passer. C'est aussi un livre sur l'exil et sur le retour possible ou impossible. Vous écrivez à la fois « j'ai adopté le pays qui m'a adopté », la France, et on sent l'émotion, les sensations du retour, alors que c'était un retour fantasmé, avant même d'ailleurs que vous ne puissiez faire ce retour réellement, et en même temps que c'est un retour qui est un retour impossible. À un moment, à la fin du livre, il y a un dialogue dans lequel vous écrivez « il faut choisir entre vivre librement dans un état démocratique en payant le prix de cette liberté, la solitude, l'exil, et rester dans une société solidaire dominée par les crises économiques et la censure, un autre type d'exclusion. On est des exilés partout, alors oui et pour toujours. Est-ce qu'on est nécessairement un exilé partout et pour toujours quand on a connu l'exil.
Omar Youssef Souleymane.
Je pense que oui, parce qu'en fait, au fil du temps, par exemple, je suis arrivé en France en 2012. Je connaissais pas la langue, je connaissais personne. Vous voyez, c'était très difficile de s'intégrer en France, de trouver des amis, de créer une nouvelle vie. Vous voyez. Alors, avec le temps, là, j'ai cette vie. Je travaille ici. Je suis vraiment chanceux. Cette phrase, justement, ce que vous avez cité, que j'ai aussi écrit dans le livre, que j'ai adopté ce pays, que j'ai adopté. Je le lis. Je le dis sincèrement parce que j'appartiens à la France universaliste. Or, il y a toujours une distance entre soi et sa terre d'accueil, son pays d'accueil. Il y a une mémoire venant de l'ailleurs. Et quand on revient vers cet ailleurs, c'est-à-dire au Proche-Orient, on garde toujours cette distance parce que nous, on a changé, on a grandi, on a évolué dans un autre monde. Et c'est ça ce que je voulais adresser par cette phrase « On reste exilé pour toujours ». Et ça ne veut pas dire que c'est triste, au contraire, c'est très riche d'être exilé parce qu'on apprend des choses. L'exil, c'est un monde incroyable. Par rapport à ce que vous dites, ce qu'il nous manque dans, enfin, le prix de la liberté, effectivement, c'est ça. Par exemple, quand on va au Proche-Orient, il y a les relations humaines, ce que Natacha aussi vous avez abordé dans l'absence de l'État. Les relations humaines deviennent très fortes, c'est-à-dire avec ses voisins, on s'aide entre nous. Il y a cette légèreté, se trouve au Proche-Orient. Les gens marchent très lentement, ils s'en fichent du monde entier. Se trouve, par exemple, on donne un rendez-vous à quelqu'un à 14h, il vient à 16h tranquillement. Vous voyez. Et ici en France, cela m'a tellement manqué. Ici, il faut courir tout le temps, et tant mieux, vous voyez, il faut travailler beaucoup, etc. Et j'aime bien ça. Or, ça nous manque toujours, les relations humaines chaleureuses, surtout dans une grande ville comme Paris.
On rendra quand même l'heure à l'émission à 13h, hein. Désolé. On pourra pas faire 2h30 de plus. C'est beau l'expression mémoire de l'ailleurs, les mémoires d'ailleurs. Et quand vous parlez, en fait, je pensais aussi à tous les artistes et intellectuels et poètes, vous êtes aussi poète, arrivés depuis l'ensemble de l'Europe à Paris au début du XXe siècle. Est-ce que vous vous sentez proche d'Apollinaire, proche de ces gens-là qui ont trouvé en Paris une nouvelle patrie, même s'ils n'ont jamais oublié la patrie de leur naissance?
Il y a une phrase que j'aime bien, être parisien, ce n'est pas né à Paris, mais renaître à Paris, vous voyez. Et tant mieux qu'on est à Paris, qu'on vient de plein de monde, plein d'univers, tellement divers. Effectivement, j'appartiens à cette école merveilleuse.
Natacha.
Alors, je voudrais d'abord lire deux phrases de votre livre avant de vous poser ma question. C'est vers la fin, enfin c'est même les dernières pages. Je reprends conscience, le soleil apparaît depuis les plages au loin, se reflète sur les vitres de la voiture, la lune n'est qu'un petit bateau plongé dans le ciel. Un air pur enfumé du parfum de lavande me ravigote. Je crois renaître. J'ai adoré ce mot ravigote et il m'inspire cette question. J'ai suivi autrefois, dans mes études littéraires, les cours d'Abdel Wahab Medeb, des cours de littérature comparée, cours sur Ibn Arabi, sur Les Mille et Une Nuits, et il avait un cours sur l'écriture et l'écriture dans une langue autre que la sienne. Et comment cette écriture, donc ce choix d'une autre langue, peut être un exil, et en fait c'est une façon de trouver sa vraie patrie. C'est-à-dire que l'écrivain, le poète, choisit de faire sa patrie dans la langue. Je voulais savoir ce que ces réflexions pouvaient vous inspirer.
Omar Youssef Souleymane.
C'est une expérience incroyable. Et justement, Abdel Wahab Medeb, moi j'adore ses écritures, surtout son livre Les illusions de l'islam politique. Mais ça c'est un autre sujet. Là, on va parler pendant longtemps. Mais par rapport à l'écriture en français, justement, je dis toujours que je suis réfugié dans cette langue, dans la langue de Paul Éluard. Je ne suis pas réfugié politiquement. Je m'identifie à cette langue. Je pense quand on n'écrit pas dans sa langue dite maternelle, c'est une expérience vraiment très très riche parce qu'on passe sa vie à apprendre et on se sent tellement libre, surtout dans une grande langue comme la langue française.
Est-ce que vous rêvez aujourd'hui en français ou en arabe ?
Je rêve et je pense et j'écris en français, mais je pleure en arabe. Parce que l'arabe, c'est la langue de l'enfance, la langue de ma grand-mère, la langue d'une mémoire, d'une manière ou d'une autre, blessée.
Expliquez-moi l'arabe qui sourit.
Je pense que sourire, c'est une résistance, parce que j'ai grandi dans un monde où on ne devait pas être joyeux. Vous voyez, j'ai grandi dans une famille très pratiquante, salafiste, donc être joyeux, c'était vraiment mal vu. Et je pense que toujours que la joie, garder toujours l'espoir. C'est la résistance la plus idéale contre toutes les dictatures, et religieuses et politiques.
Merci d'avoir résisté et merci d'avoir souri avec nous aujourd'hui. Omar Youssef Souleymane, nous conseillons en lecture d'été votre roman « L'Arabe qui sourit », c'est sorti chez Flammarion. Et ce livre, je le rappelle, vient de recevoir le premier prix littéraire du Quai d'Orsay. C'était au mois de juin, donc le mois dernier. On est encore en juin ou en juillet? Je ne sais pas encore. On est encore en juin, bien sûr. On est encore en juin, mais je vais trop vite. Vous voyez, les Occidentaux vont trop vite. On était
grave. Tant mieux.
Je suis déjà en juillet. Mais comme l'été, ça tombe bien, on peut lire plus d'un livre. On va écouter les conseils aussi des essais de Gilles et de Natacha. Quels livres vous ont particulièrement stimulé intellectuellement l'un et l'autre au point de les conseiller à nos fidèles et exigeants auditeurs? Je commence avec vous, tiens Gilles.
Alors, une sélection parmi les invités que nous avons eu la chance de recevoir
les 43.
Cette année. Parmi les 43, évidemment, choix cornélien, j'ai pris trois livres qui sont très différents, avec lesquels je ne suis pas nécessairement d'accord, mais qui ont une vertu commune, c'est qu'ils m'ont obligé à penser un peu différemment, et je trouve que c'est un des grands plaisirs de la lecture. Il y a celui de Quinn Slobodian, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet invité, qui avait écrit « Le capitalisme de l'apocalypse ». Mélanie Plouvier, qui est une réflexion sur l'héritage et les successions, qui s'appelle « L'injustice en héritage ». Et puis un invité récent, Romain Graziani, « Les lois et les nombres », essai sur les ressorts de la culture politique chinoise, qui était absolument passionnant.
Et ça, en vous écoutant, je trouve ça, et ça dit que cette émission, c'est pour ça que je l'adore, c'est parce qu'on a eu des invités qui viennent d'horizons tellement différents, mais qui pourtant trouvent ici un endroit où ils peuvent parler de leurs livres avec du temps. Et franchement, le point commun entre Mélanie Plouvier et Romain Graziani, il n'est pas évident, mais leur point commun, c'est d'avoir été tous les deux invités ici et d'être aujourd'hui les choix de lecture d'été de Gilles Finkelstein. Merci Gilles. Natacha, même question. Quel livre est-ce que vous allez conseiller à nos auditeurs?
Alors, il est vrai que je rejoignais Gilles sur deux auteurs, Quinn Slobodian... parce que son livre est absolument
magistral. Oui, un mot sur le livre.
Oui, sur le livre qui donc explique comment le néolibéralisme détruit les États par cette idée de constituer des enclaves, des zones franches, affranchies en fait de toute forme de solidarité et de l'obligation que nous avons, nous, de vivre avec des gens avec qui nous ne partageons pas forcément soit l'ethnie, soit les choix politiques, etc. Et donc ce livre est passionnant et il nous permet de comprendre qui sont Elon Musk, Peter Thiel et des gens comme ça.
Absolument, Peter Thiel qui rêve qu'il y ait 1000 pays un jour parce que ça permet de jouer la concurrence entre tous les pays et donc de favoriser le business des entreprises.
Je rejoignais aussi Gilles sur Romain Graziani, c'est pourquoi j'ajouterais, parce qu'il nous permet là de comprendre que la Chine est totalement adaptée aux nouvelles technologies et que ça nous prépare un avenir assez compliqué.
Oui, et si le mot algorithme est d'origine arabe, la réalité est aujourd'hui largement chinoise.
Mais j'ajouterais François Hartog, Départager l'humanité,
magnifique,
parce que c'est un panorama de toute la pensée européenne racontée d'une façon absolument extraordinaire et qui nous permet de comprendre les questionnements sur ce qu'est un homme, ce qu'est un individu, comment il se construit collectivement également. Et puis, j'ajouterais également Charles Stepanov, donc un anthropologue, Attachement, enquête sur nos liens, qui est une plongée, là aussi, fascinante dans ce qui fait notre humanité et notre rapport au non-humain.
Et j'ajouterais personnellement, après tous ces livres qui sont formidables, un petit tract Gallimard de Servan Mouton sur la dangerosité des écrans, ça tombe bien avant l'été, il y a plein de parents qui nous écoutent, peut-être des retours de cette table, et qui savent le danger des écrans, mais qui là trouveront des chiffres, de la raison, peut-être pour expliquer à leurs adolescents qu'il est dangereux de passer autant de temps devant les écrans. Il n'est en revanche pas dangereux du tout d'écouter la radio et France Inter. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci Gilles et merci Natacha. Omar Youssef Souleymane, je rappelle, L'Arabe qui sourit, c'est à lire chez Flammarion et qu'on conseille évidemment également pour l'été. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatt qui toute la saison a préparé à mes côtés l'émission. Aujourd'hui, Grégoire Nicolet nous a également aidés. Marie Mérier est à la réalisation de cette émission également depuis le premier jour. Aujourd'hui, Julien Dumont est à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tous les samedis à midi précise, à l'heure donc, tiens, comme par hasard, du grand face-à-face, mais pour vous raconter, semaine après semaine, l'histoire de la Ve République, l'histoire du Liban, l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, et ça commence samedi prochain avec l'histoire de la démocratie américaine.